Nous sommes de retour sur Radio Libertaire, Tormentor Radio Show, avec Paul et Émilie de Eva 3 et Riot Milou.
Alors on était resté sur cette découverte du Bukla. On a pu entendre là clairement les grands changements qui se sont opérés, ce qu'on avait déjà entendu dans le passage musical rapidement, puisqu'on avait eu que deux titres avant, mais on voit bien clairement que tu t'es c'est même plus éloigné là, c'est vraiment le grand écart. Les machines ont complètement changé ton son. Est-ce que tu abordes ces machines toujours de la même façon, ou est-ce que tu essayes de t'adapter à la machine? Ou est-ce que tu contrains la machine? Comment tu t'y prends par rapport à ça?
Alors, quand j'ai commencé musicalement, hein, donc là on parle de l'époque de Great Divide, je pensais sincèrement que c'était l'homme qui contrôlait la machine. Et puis au fur et à mesure, en découvrant la finesse de certains sons, etc., et les interactions, je me suis rendu compte que finalement, chaque instrument invite une certaine interaction. Et c'est certainement le cas du Music Is All, qui a un design qui est très particulier, qui est très différent de d'autres synthés modulaires, on va dire qu'on va appeler East Coast, genre les Moog, etc. Ouais. Parce qu'en fait, chaque fonction est un peu multiple, ou peut avoir de multiples utilités en fait. Et donc, du coup, la manière dont on va utiliser un module va complètement changer la manière d'interagir avec l'instrument. Et c'est ce que j'ai trouvé avec ça. Peut-être aussi, je devrais mentionner que, en fait, A World Within, j'avais jamais prévu de faire cet album. C'était un concours de circonstances. Je m'amusais, en fait, sur le Music Is All, et j'avais envoyé une vidéo à un ami qui connaissait la démo originale de END. Et je l'avais envoyé comme ça pour, comment dire, donc je m'étais filmé en train de le jouer, j'avais envoyé la vidéo sur YouTube, et puis voilà, c'était tout. Puis je crois 6 mois après, je me suis dit, bon ben je vais le partager avec d'autres gens, parce que pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Et puis Stefan Alt, donc de Hansen, m'a contacté et m'a dit, ah, comment dire, c'est vraiment super cet instrument, j'aime trop, etc. Tu devrais faire un album de ça, de toi en train de jouer cet instrument. Et je lui ai fait, bah écoute, j'y ai jamais pensé. Il fait, bah, si jamais tu le fais, je le sors en vinyle, etc. Je fais, bon, bah écoute, je vais voir si...
Ok.
Je vais explorer cette idée, puis si jamais j'ai assez de matériel, on en reparle. C'était pendant la pandémie, donc du coup, on était...
T'avais du temps, là.
J'avais du temps, et donc je me suis essayé, et puis je me suis rendu compte que, ouais, c'est un instrument qui me parle, c'est un instrument qui me permet d'explorer des éléments que j'ai pas tendance à explorer avec les autres instruments, qui est donc beaucoup plus mélodique, beaucoup plus ambiante aussi, même si l'ambiance était toujours... une sous-couche de ce que je faisais, là c'est beaucoup plus en avant.
Et plus subtil, hein, comme machine.
Ouais, ben, très très organique, quoi. C'est très facile de. C'est vraiment impressionnant, hein. Je commence à avoir une collection de synthés analogiques qui. Je ne suis pas à plaindre, mais c'est le seul instrument avec lequel je trouve une interaction qui est vraiment organique, en fait. C'est-à-dire que c'est une machine qui peut m'inspirer un morceau entier à jouer, etc. Généralement, les autres, c'est plus une machine qui va servir à une fonction bien précise.
Oui, elles ont besoin d'être complémentées, alors que celle-là, elle est complètement... elle peut être, à elle toute seule, faire entièrement le taf, sans avoir besoin d'être complétée par d'autres synthés ou d'autres machines ou d'autres effets. C'est,
voilà.
C'est à elle tout seule, tout le studio en un, quoi. Presque.
Voilà. Presque, ouais. C'était un peu ce que j'ai essayé de faire ressortir avec ce disque. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était vraiment faire ressortir l'interaction entre moi et la machine. Chaque morceau, c'est une seule prise. Vous m'entendez jouer l'instrument, en fait.
Y a pas de... Tu t'appuies sur Records et t'y vas, quoi.
Voilà, exactement. Donc, vous entendez la meilleure version, évidemment, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai peut-être fait 3-4 prises et pris la version qui me parlait le plus. Puis après, voilà, il y a eu les effets que j'ai rajoutés, donc reverb, delay, font partie de la performance aussi. C'est-à-dire que je les trouve au début, quand j'essaie de façonner le son, et puis après, je joue et c'est tout. C'était une décision consciente de vraiment faire ressortir cette interaction entre moi et l'instrument.
Est-ce que tu es d'accord avec mon observation sur le fait que c'est une machine qui a quelque chose de très humain, contrairement aux ouais. autres machines.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est dû à la conception de l'instrument que Don Buchla avait fait, et puis même de ses systèmes avant, en fait. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que quand il a fait donc cet instrument, les gens qui lui avaient demandé de faire ces systèmes, en fait, eux cherchaient à faire des sons qui étaient vraiment très, je trouve pas le terme, out of this world.
Comment on pourrait traduire ça, effectivement? Hors norme. Oui.
Hors norme, voilà, exactement. Hein. Mais lui, il concevait ses modules et ses systèmes comme des instruments à part entière. Donc, il y a une histoire où Suzanne Ciani, en fait, lui demandait, en construisant un module, s'il pouvait faire en sorte que l'oscillateur ne drift pas au niveau de la tonalité, enfin, pas de la tonalité, du pitch. Donc, excusez-moi, là, je trouve pas les termes en français, mais là, où en gros, il ne se désaccorde pas en plein milieu de...
Il y a quelque chose de très vivant dans cette machine. Il n'y a plus de combat homme-machine comme on l'a, je vais caricaturer, mais de façon conventionnelle avec l'analogique en général. Bon, je fais vraiment une grosse généralité là, mais alors que là, on a l'impression d'une interaction comme un homme avec un animal familier. Il y a quelque chose de très vivant et on a l'impression d'une machine qui répond à l'homme et pas d'une machine qui réagit à l'homme. Est-ce que tu ressens la même chose?
Oui, moi je le ressens complètement. Je pense que c'est en partie la philosophie de la construction, hein. Je peux me tromper, mais c'est certainement mon interprétation de la chose. C'est que lorsque Moog faisait ses synthés, souvent les gens lui demandaient « Ah, est-ce qu'on peut créer cette fonction pour que je puisse faire un son, recréer un son de flûte, par exemple, ou recréer un son orchestral ?» Oui. Alors que, par rapport à Buchla, lui, c'était vraiment beaucoup plus expérimental, finalement, dans sa démarche. Et justement, c'était « Mais comment je peux trouver un moyen d'interagir avec ça pour dompter la machine ?» Mais puis, qu'elle me parle, en fait.
Et puis, il n'y avait pas de volonté non plus d'essayer de s'approcher d'un son existant déjà, de
non,
flûte,
exact,
de piano et tout. Là, on partait dans quelque chose de complètement différent. J'en profite
exactement.
Pour signaler aux auditeurs, et je pense que ça a son intérêt, notamment avec ton dernier album, nous avons déjà interviewé ici deux autres artistes qui sont des adeptes de Buchla. Hein. Il y a Laurent Perrier, qui est un gros adepte, et puis il y a Philippe Petit, et on voit bien ce côté, ce rapport très, j'allais dire, sensuel entre la machine où on ressent quelque chose qui transparaît de plus direct de l'artiste lui-même, et c'est pas une machine qui a été domptée ou qui est contrainte par l'homme, mais comme une forme d'échange, de dialogue, comme on pourrait l'avoir avec un animal familier, un chien, un chat. Hein.
Je crois que je dirais ça de manière différente. Je crois qu'en fait, ce qui se passe, si on prend le Moog, il essaye de recréer le son d'un instrument, alors que Buchla essaie de recréer l'interaction avec un instrument.
Oui.
C'est-à-dire que le ressenti de jouer le Buchla, pour moi, c'est le même ressenti que si je joue un piano ou si un violon ou un violoncelle.
Il faut que tu expliques aussi comment...
Essayer de recréer le son de violon et violoncelle, c'est plus recréer l'interaction avec des sons qui sont complètement différents, etc. En fait. Donc je crois que c'est comme ça que je le résumerais. Tu as mentionné Philippe Petit, je vais juste dire ça vite fait en aparté. Il a lancé une compilation sur son site Modulisme,
oui.
Justement pour célébrer les 50 ans du Music Is All de Buchla. Et j'ai contribué à un morceau dessus. Super compilation, et si vous voulez entendre le...
Qui se trouve sur Bandcamp.
Ouais, le Buchla dans toute sa splendeur, regardez le Modulisme parce que c'est fascinant.
Alors, les auditeurs normalement connaissent assez bien puisqu'on en a parlé et on reposte de temps en temps les sorties de Philippe Petit dont on suit l'évolution et la production considérable. Hein, c'est un monsieur qui n'arrête pas d'en faire énormément. Qu'est-ce qu'il a pu faire ces dernières années? C'est phénoménal et qui a aussi... cette envie de partager ça et d'appeler une quantité d'artistes qui s'intéressent à ce type d'outils, on voit bien que on est passé dans un autre monde, même si c'est toujours des machines, c'est toujours dans l'analogique. Là, il y a quand même deux mondes à part, hein, on est d'accord. il n'y a pas du tout, même ne serait-ce que visuellement, quand on voit un synthé analogique avec un clavier analogique, le clavier, si on peut l'appeler comme ça, sur un Buchla, ne ressemble pas à un clavier de piano, à des touches de piano noires et blanches. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça au public, parce que c'est vraiment un monde à part, hein?
Alors en fait, il y a deux sortes de claviers. Il y en a un qui ressemble à une sorte d'oiseau où en fait chaque touche, si on peut les appeler des touches, en fait sont des trucs multisensoriels en fait, qui réagissent au positionnement mais aussi à la pression et qui peuvent servir à plein de fonctions. Et c'était d'une certaine manière l'idée de ne pas se cantonner à quelque chose de classique en fait, mais de repenser complètement l'interaction avec l'instrument.
Oui, il n'y a pas de touche qui s'enfonce, hein. On est sur quelque chose de...
Non.
De plein et qui réagit de façon très, très tactile. On peut aller de quelque chose d'assez brutal dans l'interaction à quelque chose de très caresse et le clavier réagit à ça. Donc il y a quelque chose de très humain, hein. C'est ce que j'essaie de te faire dire et d'expliquer aussi, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas cet outil, on ne se rend pas compte, c'est vraiment deux mondes à part.
Oui, oui, puis en plus, on va dire le clavier, parce qu'on peut pas, à défaut de trouver un autre terme, en anglais, ils appellent ça touch plate. Hein, donc une assiette à toucher, quoi, parce que c'est pas vraiment un clavier, mais ça peut être vraiment très 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 sensible. Donc une simple caresse peut générer un son, et puis donc on peut jouer de cette interaction beaucoup plus qu'un clavier qui a une vélocité qui est arbitraire, on va dire.
Oui, qui est calculé au poids pour avoir une sonorité, alors que là il y a vraiment une interaction complètement différente.
Voilà, tout à fait.
Bah, de toute façon, j'invite tout le monde à aller regarder un petit peu ta page, puisque tu as posté quelques vidéos de cet instrument que j'invite tout le monde à aller découvrir, parce que c'est vrai que dans le monde analogique, souvent c'est un petit peu le même monde qui tourne, et Buchla est complètement en dehors de tout ce monde là même si ça reste un synthé analogique. Je pense que quand tout le monde aura vu ça, l'auditeur comprendra un petit peu mieux, même s'il faut aller expérimenter soi-même. C'est assez assez étonnant comme machine. C'est une machine qui a l'air de sortir d'un rêve, hein. Ça ressemble à rien d'autre, mais on va continuer un petit peu dans la production que vous avez faite. Alors, pour toi, il y a eu donc ce second album, mais il y a eu une flopée de maxi. Il y a deux maxi et un inédit qui, me semble-t-il, n'est disponible que sur ton Bandcamp. Alors, il y a on en a parlé et on en a passé un morceau, La Théorie du Diable, qui est une, on va dire, une collaboration, enfin un split, puisque c'est pas vraiment une collaboration, c'est chacun un morceau avec Tour au fond en 2021. Il y a Undone après, donc qui est un maxi que tu as fait toi-même, c'est pas une collaboration. Là, c'est un long titre, hein, de 13 minutes 22, ce qui d'ailleurs aussi est logique, puisqu'on se rend compte que le changement d'outil et donc de synthé amène à des plages beaucoup plus longues. La technique aussi le veut, puisque souvent, et ça je pense que l'auditeur s'en rend peut-être pas compte, mais on a tendance à appuyer sur record et à jouer de façon assez instinctive et à garder une quantité d'enregistrement, à retoucher, à retailler si besoin est, parfois à garder tel quel. C'est plus du tout la même façon de composer que la façon, on va dire, traditionnelle, comme on peut l'avoir dans l'électro, l'EBM, l'industriel et tout ça, où c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus emboîté, on va dire ça comme ça, si ça a un sens. Tu as ensuite le dernier morceau qui est disponible donc sur ton Bandcamp, qui s'appelle Elements of Escape, qui est encore un morceau plutôt long, hein, 7 minutes 05, et le tout dernier en date, puisque c'est la dernière production sortie chez Enzen, là à nouveau un split Scandium sorti l'année dernière. Je crois que c'est plus ou moins en deuxième partie d'année, je me rappelle plus exactement la date de sortie de ce split.
Je crois que c'est en juin ou en juillet, hein, c'est ça ?
Je crois que c'est
en juin. C'est en juin. C'est sorti sur 7 pouces, hein, également, comme avec le Tourophone. Donc ça fait l'objet d'un 7 pouces à tirage limité.
Oui, qui est un petit peu la nouvelle œuvre d'art de Stéphane Hatt, qui sort maintenant des petits 7 pouces, comme on l'avait vu d'ailleurs lorsqu'on avait fait l'interview de Mike Cadou, puisqu'il avait sorti. Puis il y en a toute une flopée. Il y a quelques amis, entre autres. Il y a Gwen, il y a eu tous ces gens-là qui se sont emparés de ce format, qui est une contrainte. pointe, hein, en temps aussi. Comment tu t'adaptes à ça, puisque du coup, là aussi, l'objet, c'est plus un album. Tu dois exercer tes talents dans un temps limité, ce qui n'est pas facile avec l'outil que tu utilises.
Ouais, alors, c'est sûr. D'ailleurs, donc le morceau sur Scandium qui s'appelle Elements, en fait, est une version plus courte de Elements of Escape que j'ai raccourci justement pour le format du split. Mais alors, une chose que je vais dire pour faire le lien entre ce qu'on parlait par rapport à comment le changement de la machine influence ce que j'ai fait, donc théorie qui est sortie avant le boucla. Et en fait, c'était quoi, comme je disais, dans la phase où je pensais abandonner le projet. Mais à un moment, j'avais accumulé ces machines et je crois qu'on allait enregistrer un morceau avec Radio, mais ça n'avait pas pu se faire, donc j'avais les machines allumées. Et du coup, je me suis demandé si 15 ans après, j'avais quelque chose d'intéressant à dire et si je pouvais trouver un moyen de retourner à un truc un peu plus technoïde, mais en gardant une sonorité analogique et avec un nouveau workflow, une nouvelle méthode de travail. Et donc ce morceau, c'était cette tentative en fait. Donc tous les synthés que vous entendez sur ce morceau, ce sont des synthés donc 100% analogiques où j'enregistre et où j'essaie de développer l'idée presque en temps réel. Ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y a peut-être 70% qui sont moins en temps réel. Et puis après, il y a quelques pistes en plus pour compléter, mais ça, en gros, c'était ça. Et donc, ces instruments ont vraiment changé la manière dont je travaille. Et c'est quelque chose qui m'intéresse plus.
Ça, c'est venu, cet enregistrement, après le travail que tu as fait avec Emily sur Blackout.
Alors oui et non. En fait, Blackout, il est sorti l'année dernière, mais on avait travaillé dessus.
On a mis plusieurs années à composer.
On a plusieurs années à composer, en fait. Et donc, il y a des morceaux qui datent d'avant théorie et puis il y a des morceaux qui datent d'après, en fait.
D'accord. Donc, Ça répond un peu à ce que tu as fait avec Emily dans le dernier album dont on va parler maintenant, puisque ça, c'est la dernière production en date. Il y a même un maxi digital qui est sorti. Et je crois que maintenant, il est plus en offre téléchargement gratuit, c'est ça, Emily?
C'est ça. C'était jusqu'au 15 janvier. Et après, là, c'est plus gratuit maintenant.
Et sur cet album, donc Blackout, que vous avez composé ensemble, comment vous avez travaillé? Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le concept et ce que tu voulais faire transparaître, et comment vous êtes partagé les tâches? Qu'est-ce qui a évolué par rapport à ce que vous faisiez avant, à la façon dont vous travailliez avant, puisque là encore vous changez de matériel, donc il faut se réadapter? Et comment vous adaptez ça au projet Riot Milou?
Alors Blackout, l'idée est venue, je ne sais plus exactement le tout début, mais c'était le morceau Blackout lui-même, c'était le premier track en fait, qui était écrit peut-être en 2010, peut-être même avant, un truc comme ça. Mais à l'époque, je me rappelle que, enfin, c'était donc post la pierre soudée, c'était beaucoup axé sur le politique, sur ce qui se passait à l'extérieur, et je me suis dit pourquoi pas revenir vers quelque chose de plus interne et
plus intime.
Et finalement, oui, et puis quelque chose de plus personnel, de plus, mais peut-être personnel à tout le monde, personnel à moi, mais un personnel collectif, parce que j'aime bien un peu ces trucs qui s'opposent toujours. Et de fil en aiguille, je suis restée sur le thème de la souffrance parce que c'est quelque chose qui m'inspire énormément, mais une souffrance, oui, plus interne. Et je voulais aussi un petit peu m'éloigner de la rage, des cris, même s'il y en a toujours un petit peu, pour quelque chose d'une rage plus contenue et faire de cette souffrance quelque chose d'universel. Donc, c'était le point de départ. Après, on était resté sur les trucs analogiques parce que à ce moment-là, le studio était plein de trucs analogiques. On avait utilisé tout ça.
Je crois que ça a commencé, on était dans une phase où on écoutait beaucoup des musiques qui sortaient justement de ce côté zen, techno,
plus expérimental. Musique concrète, tout ça. Ça se
ouais,
sent.
Ouais, mais alors dedans aussi, il y avait un peu de trip-hop, je dirais, même si c'est pas toujours dans les influences qui s'aperçoivent le plus. un peu de trip-hop, un peu d'angst-pop aussi. Essayer de faire un truc un petit peu différent. Puis en ce qui me concerne, avoir un peu plus de mélodie dans la voix aussi. Je voulais essayer de m'exercer à ça un petit peu. Et avec un petit peu comme modèle November Novelette, ce genre de groupe. Je suis partie sur ça, comme départ en fait. Et après, beaucoup d'écriture, encore une fois, beaucoup de recherches sur des maladies bien précises, mais j'avais comme idée de jamais les nommer, en fait. Pour pouvoir faire d'une souffrance particulière quelque chose, comme je disais, de plus universel, où chacun pouvait se l'approprier, en fait.
D'ailleurs, à ce sujet, oui, quand on regarde les titres des chansons, on peut quand même deviner ou essayer de deviner à quelle souffrance on a affaire, parce que bon, on va passer des titres, par exemple un morceau qui s'appelle « I want to get out », peut renvoyer à des gens qui souffrent un peu d'anxiété, qui ont du mal à sortir de chez eux. Enfin bon, c'est assez simple à dire comme ça, mais bon, est-ce que c'est un peu la direction que tu as voulu emprunter avec les textes et les titres des chansons?
L'idée derrière tout ça, c'est que, en fait, il y a plusieurs interprétations pour tout. Et j'aime beaucoup cette idée que finalement, il n'y a pas qu'une réponse.
Oui, le public peut s'approprier, en fait, l'idée, ouais. Le texte.
Une autre question, voilà. Alors, au niveau de la musique, moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'album. J'ai retrouvé du dive dans la façon dont la musique était construite. Enfin, un dive période Concrete Jungle, j'ai envie de dire, assez...
J'avais pas pensé à ça.
Enfin, c'est un peu la sensation que j'ai eue, alors peut-être que je me trompe, mais il y avait cette façon de faire, ou même que Rafael Espinosa même a apporté à Dirk Evans dernièrement. Est-ce que tu es d'accord avec cette...
Tout à fait. Déjà, je suis un très gros fan de Guy Swarm, donc ces sonorités un petit peu donc analogiques, un petit peu...
old school, ouais.
Ouais, old school, c'est le terme qui me parlait vraiment. Et puis à partir du moment où on essaie de faire, je pense, de l'industriel rythmique, mais avec analogique, et qui sort un petit peu du son techno en zen, je pense que le rapprochement à dive se fait assez facilement. Mais après, moi je suis un gros fan de dive, hein, je vais pas le cacher, donc...
Et Guy Swarm aussi, hein.
Et Guy Swarm aussi, oui, clairement, ça ressort. Mais je pense que les influences sont multiples, hein. Mais oui, ce n'est pas faux ce que tu dis.
Il y a quelque chose de plus mental, moins frontal, hein, on est d'accord, là tu t'es complètement éloigné de tout ça. On voit qu'il y a une réflexion, une volonté aussi d'amener dans... Une plongée dans chacun, comme si tu donnais une histoire, mais que l'auditeur se crée sa propre lecture de l'œuvre, ce qui en fait quelque chose d'assez particulier, puisque chaque personne, et c'est un petit peu ce qu'on peut voir avec ce que disait Benjamin, chaque personne qui va écouter cet album le ressent différemment, n'y entend pas les mêmes choses. Et là, on a quelque chose qui est très, très, très ouvert. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était voulu aussi bien au niveau des textes que de la musique dès le départ? Comment vous avez construit le concept de cet album ensemble, hein, je parle à cette espèce de discussion, d'échange musique, parole.
Oui, alors bon, il y avait le concept de départ qui était, donc, comme je disais, plus axé sur les maladies mentales, mais je voulais pas les nommer, je voulais pas que ce soit quelque chose où on pointe le doigt, je voulais pas de jugement non plus.
Et
je voulais pas faire rendre ça, ouais, c'était vachement important aussi. Il y a souvent cet aspect, en fait, comment expliquer ça, glamour des maladies mentales dans la scène industrielle ou avec les
camisoles
et tous ces trucs-là. Et je voulais en faire un truc un peu plus sombre et plus vrai et axé sur les sentiments et la souffrance et la douleur. Et aussi, comme vous disiez, c'est de là après, je suis passée à l'idée de passer d'une tête à une autre. Mais de concept en concept, finalement, le concept s'est encore ramifié et c'est devenu une espèce de couche avec plein d'autres options, plein d'autres interprétations. Et plus on avance, plus j'aimais ça parce que, comme on disait, ça rend l'objet, l'histoire, le concept, la musique, tout comme une expérience personnelle. Mais aussi universel. Encore une fois, c'est tout et son opposé en même temps. J'aimais beaucoup cette idée-là. Mais après, musicalement...
Ouais, musicalement, je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Emily m'a parlé de ce contexte, de ce concept, pardon, qu'elle voulait faire, moi, ça collait vraiment avec cette notion de musique introspective, en fait, oui, que je voulais faire.
Tout à fait.
Et d'une certaine manière, la vision que moi, j'avais musicalement, c'était une sorte de créer un effet où les gens peuvent se perdre je vais dire dans une sorte de transe, mais j'aime pas ce terme, mais une sorte d'oubli personnel.
Ça serait presque une dépersonnalisation, tu t'oublies dans la musique, je pense.
Voilà.
Oui, c'est très, très introspectif, ouais, tout à fait.
Pour que la voix d'Emily, en fait, devienne la voix personnelle, comme si c'était la voix d'Emily devenait la voix de tête que les gens peuvent entendre.
La petite voix intérieure, oui. Tout à fait.
Exactement. Donc c'était un petit peu la recherche musicale pour ça.
Et moi, par-dessus ça, je voulais un élément de claustrophobie, je voulais un élément d'oppression, je voulais des sons de batterie très proches du cœur aussi. Je voulais des choses très étouffées, très oppressantes. Je crois que c'est le meilleur terme. Hein.
Ouais, plus humain aussi.
Pour pouvoir amener le voyage. Mmh. Hein.
Beaucoup plus humain aussi, hein. Il y a quelque chose de très humain, ouais, tout à fait, qui transparaît là-dedans. Alors, rapidement, avant que on passe à la musique suivante, j'avais juste une petite question, moi, par rapport au live, puisque il me semble avoir compris qu'il y avait des choses qui se profilaient dans un avenir relativement proche. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, pour chacun des projets, hein, parce que il me semble qu'il y a quelque chose en route. Est-ce qu'on peut en parler déjà ?
Alors, pour l'instant, au niveau Ride Me, il y a deux concerts qui ont l'air de se profiler, avec un de confirmé à Berlin cet été.
Oui, cet été, à Berlin, on va jouer à un festival qui s'appelle le Brutal Berlin Furore, qui a lieu le 19 et 20 juillet. Donc ça, c'est officiel.
Avec Super Symmetria, Hypnoskull.
Super.
Ouais. Ouais, ça va être plutôt cool. Et puis...
Capsular aussi.
Ouais.
Et après, il y en a un qui n'est pas encore confirmé.
Enfin, qui n'est pas encore officiel.
Enfin, c'est pas officiel. C'est confirmé, mais c'est pas officiel, on va dire. Qui serait Wroclaw. Donc, Wroclaw...
Le plus célèbre festival polonais.
Ouais. On a été super contents quand on nous a proposé ça. Et donc on serait invités. Bon, on est invités même à Wroclaw pour l'édition 2024 en novembre.
C'est ça, oui. Ça, c'est début novembre. Hein.
Ouais, c'est ça.
Changer du Zorba.
c'est la
fois où j'ai pu voir Riot Milou en concert dans la cave du Zorba. Un grand moment,
ouais.
C'était très amusant.
C'était
intense aussi.
Et on espère vous revoir aussi rapidement sur Paris, parce que là, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on vous a pas vu. Ouais. Il serait peut-être temps de penser à mettre quelque chose en place.
Ouais. On explore les possibilités.
On espère y arriver.
D'ailleurs, si un promoteur écoute l'émission, ça les intéresse de nous avoir, ils peuvent nous contacter. Mais on explore quelques pistes pour voir ce qu'on peut faire. Hein. On aimerait beaucoup.
Bien, et eh bien, Paul et Émilie, on vous remercie beaucoup. Alors, on va conclure l'interview et on va annoncer donc les quatre titres qui vont ponctuer cette émission. On va passer donc trois titres de Blackout, de Riot Milou. On va écouter Define Normal, I Want to Get Out et Don't Tell Anyone. Et peut-être une petite réaction sera suggérée avec ça. On va écouter aussi La Mémoire des Sens, donc de Eva 3 featuring Riot Milou, qui est sur une compilation The Plan Big Hugs, qui est une compilation en mémoire au cofondateur de la Electroverts Slime Like London, donc de Maiwan Mack, donc qui nous a quitté tristement en décembre 2020. Si vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet-là, c'est le moment.
Ouais, bah en fait, Mac, c'était mon boss pendant un certain temps. C'est lui qui, après le concert avec HIV Positive, m'a demandé de travailler pour Slam Light. C'était quelqu'un de vraiment exceptionnel. Et quand on m'a demandé de contribuer, je pouvais pas dire non. Donc voilà.
Mais aussi, ce qui est important de dire, c'est que Eva 3 a fait son premier concert à Slam Light.
C'est notre premier concert
ensemble d'ailleurs.
Ouais.
Donc toute une histoire derrière, et c'était quelqu'un de vraiment admirable, quelqu'un de très humain, quelqu'un de très ouvert, qui a donné tellement de chance à plein d'artistes et
une plateforme
d'expression.
Une plateforme d'expression pour beaucoup de gens d'une manière qui allait à l'encontre de la normalisation qu'on peut voir partout. Donc c'est une grande perte.
Qu'est-ce qu'il en est de l'aventure Slam Light à l'heure actuelle ?
Alors ça a été récupéré par deux promoteurs qui viennent pas du tout de ce milieu-là, en fait.
Encore des businessmen quoi.
Ils viennent du milieu de la nuit, mais ils viennent plus de clubs un peu plus mainstream. Donc ils ont certaines attentes qui ne sont plus forcément les mêmes que celles-là.
Aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'avant Slam Light, c'était tous les samedis. Il y a un moment donné où ça s'était ralenti parce que Slamlight n'était plus très profitable en termes financiers. Et donc, ces nouveaux promoteurs ont rendu, en fait, Electroverse, qui est le nom du building, plus profitable. Mais ça voulait dire que Slamlight existe toujours, mais c'est plus qu'une fois par mois et c'est plus dans les mêmes termes. Donc, ça a beaucoup changé.
Ça a beaucoup changé. L'accès est beaucoup plus basé, comme on peut voir dans certains clubs plus mainstream, sur des danseurs ou des performeuses en costume assez visibles. Il n'y a plus forcément beaucoup de place maintenant pour les artistes.
Il y a encore de la place pour la musique, mais beaucoup moins qu'avant, et dans des formats plus réduits, on va dire, selon nous. Mais après, il y a encore des personnes comme Francesca qui donc a fait cette compilation avec Pete, et c'était qui la troisième personne qui essaie de garder la mémoire de Mac. Donc il y a encore des gens qui se battent pour que ça continue, mais malheureusement, c'est plus comme c'était. Mais après, bon, les temps changent et puis...
Voilà, c'est déjà bien que ça existe toujours parce que...
Je suppose que c'est sur ce signe d'espoir. J'espère que nous allons nous quitter.
Voilà.
Et à vous deux, on vous remercie chaleureusement d'avoir bien voulu nous consacrer une bonne heure et demie de votre temps à répondre à nos questions.
Merci bien.
Merci de nous avoir invités aussi. Et puis, c'était un plaisir.
Ce fut un plaisir. On espère vous voir à Paris très rapidement.
Nous aussi.
Au revoir.
Merci, au revoir.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Salut à tous.
No more. What is wish the light could come into. The bolt is blocking the door. Instead, I am drowning in ocean of guilt, while others are cheering from afar.
naissance. En cette instance, la brillance et la mouvance des sens. En cadence, même si la dégénérescence des sens n'éclipsera jamais en abondance la mémoire des sens.
Bonsoir Chaos, représentant des labels YB70 et Itarbium. Vous écoutez Tormentor Radio Show sur Radio Libertaire.